Mais d'abord,
ah tiens, oui. Mais oui, c'est vrai, on serait surprendre, c'est l'ouverture des marchés américains, parce qu'il est déjà 9h30 là-bas, à New York, et la cloche retentit, elle est en pitié, la cloche américaine et le prono. Donc 9h30 là-bas, premiers instants de cotation avec notre Dream Team, Eric Lafrenière pour Sonium. Bonjour Eric.
Bonjour,
vous retrouvez Antoine en fil rouge. Rebonjour Antoine.
Bonjour Guillaume.
Après un joli numéro encore ce matin, Tout pour investir, déjà disponible en podcast et replay.
Oui, avec deux sujets très intéressants. Alors vraiment pour le coup, pratico-pratique, comment assurer son autonomie, son indépendance quand on est une femme du point de vue du patrimoine. Il ne s'agit pas de préparer la guerre avec son conjoint, mais juste d'être super clair et de ne pas perdre de valeur. C'est ça véritablement l'enjeu. Et puis, juillet, c'est la saison des bonus, des intéressements, etc. Ça commence à être versé. Alors, quelle décision prendre et comment bien arbitrer? On en parlait avec Benjamin Pedrini d'Epsor, qui est spécialiste en la matière. Et vous pouvez retrouver ça, évidemment, en podcast et replay, votre bibliothèque patrimoniale personnelle.
Eric Lafrenière, donc, avec nous, Sonium. Eric, Wall Street ouvre après un long week-end de 3 jours. Le S&P 500 gagne 0,5%, tranquille, le Nasdaq plus 0,8%. Marché d'autant plus tranquille qu'il semble que le pétrole devienne une affaire secondaire pour les marchés. On est retombé sur les niveaux d'avant-guerre sur le pétrole. Le Brent est à $72 aujourd'hui. Est-ce que le marché même est en train de basculer d'une crainte de pénurie, un risque à l'inverse de surabondance sur le pétrole?
Oui, donc on a eu une nouvelle annonce de hausse de la production des membres de OPEP+. On parle de 190 000 barils jour. Ça peut paraître modeste comme hausse. Mais si on regarde un petit peu depuis le début du conflit, on parle d'environ 1 million de barils quotidiens qui a été remis sur le marché par OPEP+. Il faut se rappeler que juste en amont du conflit, on était quand même déjà dans une période où on s'attendait à avoir un surplus de production sur le marché. On voit que depuis la trêve entre les États-Unis et l'Iran, progressivement, on a le retour des exportations du Golfe qui reviennent sur le marché. Et donc, comme vous l'évoquiez, le Brent qui revient autour des $72, c'est environ 40% en dessous des plus hauts niveaux atteints pendant le conflit. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que l'OPEP+ arrivera à garder la discipline au sein de son organisation, puisqu'on le sait, l'Irak réclame des quotas plus élevés. On sait que les Émirats, eux, disposent de capacités de production importantes dans un environnement où la demande est encore un peu incertaine. Et donc, si tous ces barils reviennent sur le marché en même temps, on pourrait se retrouver effectivement dans une situation d'excédent. Et là, la question sera, est-ce que les membres vont réduire cette production pour préserver les prix, ou est-ce qu'on peut entrer dans une phase un peu de guerre pour aller chercher des parts de marché? Ça, les prochains mois nous le diront.
Oui, avec une baisse de production donc dans le collimateur. Le pétrole est à $72 en ce moment pour ce qui concerne le Brent. Le Nasdaq, on va suivre notamment demain le Nasdaq, parce qu'il va intégrer, ça y est, pour la première fois, SpaceX. On y reviendra, SpaceX demain intégrera ce Nasdaq. Mais aujourd'hui, dans l'IA, il y a aussi un nouveau venu. Alors, on n'est pas encore sur les premières cotations, ce sera dans quelques jours, mais c'est désormais officiel. SK Hynix, le leader coréen, la star coréenne des cartes mémoire, eh bien SK Hynix officialise son entrée en bourse aussi à Wall Street.
Oui, via un ADR, et c'est un moment important. Je crois que, pour ceux qui ne connaissent pas SK Hynix, c'est un des principaux fournisseurs de mémoire à haute performance, ce qu'on appelle les HBM. Et on sait qu'ils sont indispensables au fonctionnement de l'intelligence artificielle de nouvelle génération. Et c'est une société dont les analystes sont très chauds aujourd'hui. On anticipe des marges de brut, je crois, de hauteur de 91% sur son activité DRAM au second trimestre. On voit que le marché a en tout cas acheté l'histoire. Le titre est en hausse d'environ 250% depuis le début de l'année. Le concurrent américain Micron aussi a connu une performance spectaculaire. Et c'est vrai qu'il faut néanmoins garder quand même une certaine prudence quand on regarde ces dossiers, puisque historiquement, on le sait que l'industrie des mémoires est une industrie cyclique. On a des périodes d'euphorie avec des marges exceptionnelles, des marges hyper élevées. Et elles sont généralement suivies de phases de normalisation. Et donc, la question aujourd'hui qu'on peut se poser sur ce type de valeur, c'est est-ce qu'on est au début d'un super cycle qui sera plus durable, porté par les besoins dans l'intelligence artificielle ou même dans le développement de la robotique dont on parle beaucoup, ou est-ce qu'on approche aujourd'hui d'un pic de rentabilité? En tout cas, on sait que via cette cotation aux États-Unis, SK Hynix cherche à lever entre 28 et 30 milliards de dollars. Donc, il faudra voir s'il y aura des arbitrages sectoriaux, et est-ce qu'il y a suffisamment d'appétit pour aller chercher tous ces capitaux.
Le prix exactement, ce sera un bon test à nouveau pour l'IA, les cartes mémoire. Est-ce que le marché a encore l'appétit sur cette thématique? Et alors, justement, puisqu'on est sur SK Hynix, on est dans ces acteurs qui portent les dernières jambes de hausse de la tech en bourse. Et pour l'instant, Nvidia, comment se situent les produits Nvidia face aux défis industriels de la prochaine génération, en l'occurrence d'intelligence artificielle?
Oui, un cabinet de recherche a sorti il y a quelques jours que le lancement de Kuiper, la future architecture de serveurs très, très haute performance de NVIDIA, pourrait être repoussée. Devait sortir en 2027, elle pourrait sortir en 2028. Kuiper doit équiper les prochaines générations des puces de Rubin Ultra. Ce sont les processeurs destinés à entraîner les modèles d'IA les plus puissants au monde, hein, on le sait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, NVIDIA est confrontée à une réalité industrielle, hein, et la complexité de fabrication devient importante sur certains composants clés. On parle notamment des cartes électroniques qui relient l'ensemble des systèmes qui sont très difficiles à produire à grande échelle. Et est-ce que NVIDIA va être capable de continuer à innover au rythme qu'elle a connu ces dernières années où presque un produit par an était sorti et lancé chaque année? Donc, est-ce que les contraintes de production vont commencer à peser sur le titre? Ça, c'est une réelle question qu'on peut avoir. Et aussi, est-ce que ça sera une opportunité à saisir pour certains concurrents? On peut penser à AMD ou à Google qui a ses propres puces d'intelligence artificielle pour aller chercher dans cet environnement-là, gagner des parts de marché.
Et justement, plus largement sur l'IA générative, Eric, est-ce qu'on commence à avoir une réponse à cette question que tout le monde se pose, savoir si le retour sur investissement est à la hauteur des promesses désormais? Est-ce qu'on a des signes que ça commence à être à la hauteur des promesses?
Là aussi, dans les derniers jours, on a eu le patron de Palantir, Alex Karp, qui s'est exprimé. Hein, beaucoup d'influence dans la tech américaine. Et ce qu'il a indiqué, c'est que lui, il pense que les grands modèles de langage hein, qu'on a sortis, que ce soit ceux d'OpenAI ou d'Anthropic, ont été survendus et que le principal reproche qu'il évoque en concernant ces modèles, c'est que les coûts d'utilisation explosent hein, et que la création de valeur ne serait effectivement pas au rendez-vous pour les entreprises. Et on a pu le voir, hein, Tesla qui a limité à $200 les budgets de ses ingénieurs par mois de consommation. On l'avait vu avec Uber également qui avait réduit aussi, en tout cas limité, capé les dépenses d'IA de ces modèles. Et concrètement, on voit que voilà, aujourd'hui, on n'est pas capable de mesurer concrètement ou précisément le retour sur investissement de toutes ces dépenses. Et ce qu'il avance encore, c'est que les entreprises aujourd'hui veulent plus qu'accéder à un modèle d'IA puissant. Elles recherchent surtout des solutions concrètes qu'elles peuvent appliquer à leurs propres données, sécuriser leurs propres données. Bon, faut pas non plus être naïf, c'est un peu ce que fait Palantir. Donc, il essaie aussi de mettre en avant, bien entendu, son business. Hein. Faut pas oublier, hein, Palantir essaie de sécuriser, de transformer les données réelles de l'IA en outil opérationnel, mais ce que veut le marché aujourd'hui, bah, c'est effectivement arriver à monétiser, à calculer le coût. Donc le débat, il évolue. La question n'est pas nécessairement de savoir qui possède le modèle le plus puissant, mais quel modèle sera capable de transformer cette puissance en valeur économique réelle pour les entreprises qui l'adopteront et qui l'utiliseront.
Ouais. Bah, tout ça, on va le suivre encore, cette nouvelle semaine qui s'ouvre sur les marchés américains. Antoine, vous vouliez surgir.
Précisément, concernant ces annonces, il y a The Information qui sort que Microsoft est sur le point de supprimer 4800 postes. Alors, il s'agit de postes dans des divisions qui ne s'occupent pas d'IA plus précisément. A priori, c'est plus dans les jeux vidéo et les supports, notamment Xbox. Mais enfin, quand Microsoft se met à songer à tailler dans ses effectifs, c'est a priori pour mettre de côté pour les investissements pour l'IA. Vous savez, la semaine dernière, Microsoft a annoncé 6000 créations de postes parallèlement pour faire quoi ? Pour aller sur le terrain dans les entreprises, aider les gens à maîtriser l'IA. C'est dire s'ils y tiennent à l'adoption et qu'ils veulent que ça rapporte. Oui. Et effectivement, le patron de Microsoft avait été le premier à s'en inquiéter en début d'année.
Il faut maintenant qu'on parle de Tesla. On parlera pas de SpaceX, pas beaucoup aujourd'hui, ce sera plutôt demain. Tesla, moins 0,6%. Et pourtant, c'est une journée importante pour Tesla. Eric, le constructeur, fait parler de lui. Avec l'annonce, ça y est, du déploiement officiel de ses robotaxis, désormais à Miami, en Floride.
Oui, donc depuis le 3 juillet, effectivement, les robotaxis sont disponibles à Miami. C'est le troisième État américain à accueillir cette activité pour Tesla, après le Texas et la Californie. Elon Musk, hein, on le sait, a beaucoup mis en avant l'intelligence artificielle comme nouveau moteur de croissance de Tesla. Mais pour les investisseurs, le déploiement des robots taxis reste encore beaucoup trop lent et veut avoir un peu plus de visibilité. Hein. On sait qu'à ce stade, Tesla prévoit pas de contribution significative de l'activité de robots taxis à ses revenus avant ou ses bénéfices avant au moins 2027. Hein, et aujourd'hui, on sait que les investisseurs veulent également avoir des nouvelles, non seulement du déploiement de l'activité de robotaxi, mais aussi du déploiement d'Optimus, hein, qui est le robot humanoïde développé par Tesla. On sait que l'entreprise a déjà converti une partie de son usine de Fremont aux États-Unis, qui était dédiée à la fabrication de modèles S et de modèles X, pour justement pouvoir augmenter sa capacité de production des robots. Et on le sait que lors de la prochaine publication trimestrielle, je crois que c'est le 22 juillet, bah, au-delà du volume de voitures qui seront produites, les investisseurs, je crois, vont être plus intéressés d'avoir des indications concrètes sur le calendrier et le potentiel commercial de ces nouveaux relais de croissance, hein, qui sont attendus, l'activité robotaxi et le déploiement des robots, quoi. Chez Tesla.
Tesla en baisse de 0,6%. Puis on va suivre Boeing aussi aujourd'hui, qui, alors de son côté, vous savez, on a beaucoup parlé des malheurs du 737 Max, ouais. Cet appareil de Boeing. Ben, ça va mieux. Boeing prévoit d'ouvrir aujourd'hui sa quatrième ligne de montage pour le 737 Max dans son usine d'Everett. Une étape importante là pour augmenter les cadences de production. Du coup, ça veut dire qu'il attire à nouveau finalement cet avion, Eric.
Oui, bah, en fait, je pense que l'avion, c'est pas un problème d'attirance de l'avion, c'est qu'on sait suite aux divers problèmes qu'ils ont pu avoir. Le régulateur américain avait imposé des caps de production pour s'assurer d'une qualité de production qui revenait, en tout cas, au niveau des attentes. Progressivement, ces caps de production ont été levés. Maintenant, Boeing doit démontrer sa capacité à accélérer la production de ses vols tout en maintenant la nouvelle qualité qui a été trouvée. On parle de 47 appareils par mois dans un premier temps et ils espèrent monter d'ici début 2027 à 52 appareils par mois. Et tout en maintenant la qualité de production, ce qui avait été le gros défaut de Boeing dans les dernières années. Donc, on veut s'assurer que ce rythme de cadence plus élevé, hein, après plusieurs années marquées par les difficultés industrielles et opérationnelles, bah, livreront ce que le marché attend, ça veut dire la capacité à tenir ses objectifs de production et à stabiliser durablement sa chaîne industrielle pour plus avoir d'incidents comme on a pu avoir dans les dernières années.
Ce titre Boeing en direct, eh bien, il gagne sur l'annonce, c'est pas une annonce, hein, mais sur cette date où donc une quatrième ligne de montage pour 737 Max va ouvrir, il gagne un peu plus d'1%. Cette semaine, on suivra aussi, alors, peu de rendez-vous macroéconomiques, mais quand même une curiosité du côté de la Fed, les minutes de la Fed, les premières minutes de l'ère Kevin Warsh, qu'est-ce que vous en attendez, Eric ?
Oui, donc ce qu'on attend de voir, c'est effectivement cette volonté qui avait été exprimée lors du discours de la dernière réunion de la Fed. Ça veut dire cet objectif ferme pour la Fed de revenir vers un niveau durablement autour des 2% d'inflation, hein. On va voir dans les diverses discussions, puisqu'on aura le compte-rendu, si certains membres étaient quand même clairement plus ouverts à des hausses des taux pour atteindre cet objectif. Globalement, on devrait quand même avoir un message qui est assez ferme, même si les dernières données de l'emploi, notamment la semaine dernière, ont apporté une certaine détente sur le marché quant aux prochaines hausses des taux. Le discours, en tout cas, qu'on devrait retrouver dans les minutes, devrait quand même être assez ferme vers la volonté pour la Fed de retourner de façon durable vers cet objectif d'inflation à 2%.
Eric,
c'est ce qu'on devrait voir dans les minutes.
Lafrenière, ce sera mercredi soir, les minutes de la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup, Eric, depuis Sony AM.